Via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, ravi de terminer la semaine avec vous dans Appel sur l'actualité. Le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne. Dans une demi-heure, vous nous parlerez de la déconfiture du PSG, battu 3-2 par Barcelone mercredi soir au Parc des Princes, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Vous reviendrez sur le bras de fer au Cameroun entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et le ministre des Sports. Vous réagirez à la décision du chef de la junte malienne, Assimi Goïta, de suspendre les activités des partis et associations politiques. Vous commenterez la sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement sénégalais et vous nous direz ce que vous inspire la situation politique tendue au Togo. Rendez-vous donc dans une demi-heure pour la libre antenne, mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité à la rédaction de RFI. En Afrique du Sud, la campagne électorale bat son plein alors que les élections générales se profilent le 29 mai prochain. Des élections qui s'annoncent difficiles pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis exactement 30 ans ce mois-ci. L'ANC qui a subi un camouflet cette semaine. Jacob Zuma, malgré ses casseroles judiciaires, sera en course pour les législatives. Ali, bonjour.
Bonjour Chantal Oro, comment vous allez?
Ah, très très bien, merci. Vous nous appelez de Cotonou, au Bénin. En ligne avec nous, Claire Bargelès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Johannesburg. Ali, vous avez la parole, on vous écoute.
J'ai entendu sur votre antenne que Jacob Zuma sera finalement candidat aux législatives du 29 mai pour le parti MK. Comment expliquer ce revirement de la justice sud-africaine?
Alors Claire Bargelès, Jacob Zuma a 81 ans, c'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, hein, il a gouverné de 2009 à 2018. Il avait dans un premier temps vu sa candidature invalidée, mais après un recours en justice, il peut donc se présenter.
Oui, et c'est un gros rebondissement dans cette campagne. Jacob Zuma est bien le candidat numéro un du parti Umkhonto we Sizwe, abrégé en MK, sur les listes électorales définitives publiées mercredi. Pourtant, il y a tout juste 2 semaines, cette même commission l'avait exclu des listes, se basant sur un article de la Constitution qui établit qu'une personne condamnée à plus de 12 mois de prison est inéligible au poste de parlementaire, et ce, pour 5 ans. Et on rappelle que Jacob Zuma avait bien écopé de 15 mois de prison en 2021 pour outrage à la justice. Mais la Cour électorale a fait une lecture différente de la loi, puisqu'elle a décidé de donner le feu vert à celui qui est surnommé le président Teflon par ses soutiens pour sa capacité à se sortir de toutes les situations, mais il a prouvé une nouvelle fois. Pour répondre à la question de votre auditeur, la Cour électorale n'a pas précisé lors du rendu de sa décision quel argument exactement lui a permis de trancher en faveur de l'ancien président. Peut-être a-t-elle retenu les propos de son avocat qui défendait qu'il n'avait pas effectué la totalité de sa condamnation, puisqu'il a été libéré après moins de 3 mois de prison pour raison médicale et ensuite tenu une remise de peine. Alors la commission n'a pas encore dit son dernier mot puisqu'elle vient tout juste d'annoncer ce matin s'être rapprochée de la Cour constitutionnelle pour trancher la question. Jacob Zuma, de son côté, n'a pas attendu longtemps pour se servir de l'affaire afin de se dire victime d'une attaque personnelle et savourer publiquement sa victoire.
Ali, vous avez une autre question pour Claire Bargelès?
Oui, la candidature de Jacob Zuma peut-elle vraiment nuire à l'ANC?
L'ANC qui était avant même la création du parti de Zuma déjà en difficulté et qui pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement, Claire. Donc on imagine que cette candidature n'arrange pas ses affaires.
Oui, c'est toujours dur de prédire les élections, mais c'est sûr que cette dissidence vient mettre encore plus de bâtons dans les roues à Cyril Ramaphosa et son parti. Et c'est d'ailleurs le but affiché de Jacob Zuma. Sa candidature a déjà des conséquences puisque les derniers sondages donnent le MK à 13% et l'ANC à 37%. À voir s'ils se concrétiseront, mais Cholodi, comme il est appelé par son nom de clan, peut encore compter sur une forte base dans la région du KwaZulu-Natal, la deuxième en termes de nombre de voix. voix, et puis il n'est pas non plus sans soutien dans la région autour de Johannesburg, qui est la région la plus peuplée du pays. Il lui sera certes très difficile de remporter assez de voix pour retourner à la présidence, sans compter qu'il y a aussi les obstacles juridiques, comme il a déjà fait deux mandats, mais il n'est pas impossible qu'il devienne faiseur de roi ici, peut-être au Parlement, mais aussi dans la région du KwaZulu-Natal, puisqu'on vote en mai à la fois pour les législatives, mais aussi pour les élections régionales.
Alors Jacob Zuma revient pourtant de loin. Est-ce que les Sud-Africains peuvent encore avoir confiance en lui ?
On pourrait croire que le fait qu'il ait été poussé à la démission en 2018 et par la suite les révélations des affaires de corruption sous sa présidence signerait la fin de sa crédibilité. Mais paradoxalement, il représente désormais une forme de vote contestataire pour les électeurs en colère contre l'ANC, son ancien parti. Et puis il conserve aussi toujours cette image d'homme proche du peuple qu'il a toujours eu attaché à sa personne. Cependant, sa formation créée il y a moins d'un an connaît aussi des disputes internes. 4 membres de la branche jeunesse ont été démis de leurs fonctions, et parmi eux le coordinateur national qui avait menacé de perturber les élections si Jacob Zuma ou le parti MK ne pouvaient pas se présenter. Donc avec tous ces derniers rebondissements, on peut prévoir que ce seront en tout cas des élections sous haute tension.
Des élections que vous suivrez pour RFI. Claire Bargelès, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Johannesburg. Ali, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Bonne journée à Cotonou. Le HCR a recensé 460 000 réfugiés au Cameroun. Plus de 220 000 d'entre eux venus du Nigeria et de Centrafrique pourraient être bientôt privés de l'assistance du PAM. Abba, bonjour.
Bonjour, Madame Chantal, et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Bertoua, dans l'est du Cameroun. À mes côtés en studio, Lisa Fabian, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour.
Bonjour.
Abba, on vous écoute.
Les programmes alimentaires mondiaux au Cameroun risquent d'interrompre son aide de refuser. Et à ce sujet, j'ai quelques questions à vous poser. Comment expliquer cette baisse des ressources ?
Alors, Lisa Fabian.
Alors, plusieurs facteurs expliquent la baisse des ressources allouées à l'assistance humanitaire au Cameroun. D'abord, et comme souvent, la concurrence d'autres crises ailleurs dans le monde, à Gaza, en Ukraine ou encore au Soudan. Des crises plus médiatisées ou perçues comme plus urgentes qui peuvent attirer davantage de fonds, laissant moins de ressources disponibles pour le Cameroun. Dans ce pays, on enregistre une nette baisse des ressources depuis 2021, selon le Programme alimentaire mondial, alors que les donateurs privilégient les situations de crise aiguë où les populations ont un besoin immédiat d'assistance.
Le Cameroun est le théâtre de plusieurs crises humanitaires complexes. Cela entraîne une répartition des ressources.
Oui, cela complique la répartition des ressources, puisque le Cameroun fait face à plusieurs crises simultanées. Des groupes armés sont actifs dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Des attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans les régions de l'extrême nord, sans oublier l'afflux de réfugiés centrafricains dans l'est du pays. La multiplication des crise fait bien sûr pression sur les ressources disponibles, entraînant une répartition moins importante pour d'autres besoins.
Abba, vous avez une autre question pour Lisa Fabian.
Comment les pense-t-il de nouvelles sources d'argent ?
Et c'est d'autant plus urgent de trouver de l'argent que le PAM a déjà réduit les portions distribuées aux bénéficiaires à cause justement du manque de financement, Lisa.
Pour le moment, le PAM dit poursuivre son dialogue avec les donateurs pour tenter d'obtenir des ressources supplémentaires pour les populations cibles au Cameroun. Concrètement, l'Organisation humanitaire des Nations Unies a besoin en urgence de 23 millions de dollars afin de continuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle à plus de 220 000 personnes jusqu'à la fin de l'année 2024. Le PAM travaille également avec le HCR pour envisager des programmes qui permettront aux réfugiés d'être à terme plus autonomes et se prendre en charge eux-mêmes avec une transition vers un soutien aux moyens de subsistance, par exemple.
Abba, vous avez une dernière question.
Oui, Chantal. Et si le programme est arrêté, Chantal, quelles pourraient être les conséquences ?
Lisa, sans financement supplémentaire, le PAM n'aura d'autre choix que d'interrompre à nouveau ses opérations, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour les quelques 220 000 réfugiés qui dépendent presque exclusivement de cette aide pour se nourrir.
Oui, et si on en arrive là, les réfugiés vont sans doute être obligés d'adopter des stratégies désespérées ou de substitution, d'abord évidemment en mangeant moins, mais c'est une situation qui peut pousser les familles à sortir leurs enfants de l'école pour qu'ils aillent travailler ou qui peut exposer les filles à des mariages précoces. Il y a aussi un risque que certains réfugiés s'enrôlent dans des groupes armés pour tenter de subvenir à leurs besoins. Cette situation peut avoir des effets dévastateurs et souvent irréversibles, en particulier pour les plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
Merci beaucoup Lisa Fabian pour ces précisions. À très bientôt sur l'antenne. Abba, est-ce que vous êtes satisfait ?
Oui, je suis tout à fait satisfait, Chantal. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous et bonne journée à Bertois. Où se trouve le président congolais Félix Tshisekedi ? C'est le mystère qui intrigue en RDC. Fils, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à toutes les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous nous appelez de Kinshasa. À mes côtés, Paulina Zidi, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Paulina.
Bonjour.
Fils, on vous écoute.
Oui, Chantal, en fait, il y a eu un ambigu ici. En fait, la RTBF nous a informé que le président Tshisekedi était à Kigali pour les commémorations du 30e anniversaire du génocide rwandais, avant de s'excuser. Aujourd'hui, nous ne savons pas toujours où se trouve le président. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez une information par rapport au déplacement du président et pourquoi la présidence de la République ne nous informe pas quant à ce sujet.
Alors, voilà, beaucoup de questions. Paulina, on a besoin de votre éclairage.
Alors, on va revenir un peu sur ce double couac du week-end dernier dont parle FIS, enfin la partie RTBF. Alors, premier acte, dimanche matin, 7 avril, l'ACP, l'agence congolaise de presse, l'agence officielle du pays, publie un message sur son compte Twitter pour annoncer le départ du pays du président pour Paris. Pourtant, si le président Tshisekedi a bien un voyage prévu pour Paris, c'est pas avant la fin du mois d'avril. L'ACP efface son tweet, mais la nouvelle d'un déplacement a déjà fait le tour de la toile. Deuxième acte, toujours dimanche, journal de 13h de la RTBF, donc la télévision publique belge francophone. Le journaliste qui couvre à Kigali au Rwanda les commémorations pour le 30e anniversaire du génocide des Tutsis, y annonce la présence de Félix Tshisekedi. Et dans le contexte entre le Rwanda et la RDC, je ne vous cache pas que cette information, elle fait tout de suite le buzz. Pourtant, sur place, aucun autre journaliste n'est en mesure de la confirmer, puisque personne n'a vu le président congolais. Il n'apparaît pas sur les images des commémorations.
Mais l'information devient crédible, car on sait qu'il est en déplacement suite au message du matin de l'ACP.
Et effectivement. Alors, on se tourne donc vers les services de la communication de la présidence congolaise pour leur demander une confirmation ou un démenti. Et c'est un démenti qui vient assez rapidement. La porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Asamala, publie sur les réseaux sociaux ce message. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas fait le déplacement à Kigali pour participer à la commémoration des génocides, contrairement à ce qui a été diffusé sur la RTBF. Il effectue plutôt un déplacement à l'étranger pour des dossiers urgents liés au pays. Et à 19h, dans son édition du soir, la RTBF fait marche arrière. Elle reconnaît une erreur de la part de ses équipes.
Mais on ne sait toujours pas, Paulina, où est parti le chef de l'État.
Oui, c'est une information confidentielle qui n'a pas été communiquée à la presse. Il n'est pas apparu en public depuis samedi soir, depuis la cérémonie de réconciliation des communautés Teke et Yaka, à l'origine d'un conflit dans la province du Maïdombé. On sait juste qu'il est en dehors du pays, la destination est secrète. Pas d'informations non plus sur les dossiers urgents qu'évoque Tina Salama dans son message. Ce que mes sources me disent en off, c'est que le président n'est pas à Paris ni à Kigali. Il va bien et qu'il sera de retour ce week-end. Alors l'avion présidentiel que l'on peut suivre, comme tous les avions sur les sites de tracking, est à Bruxelles depuis dimanche après-midi. Mais c'est une donnée qui est quand même toujours à prendre avec des pincettes parce que ça arrive que ces avions, ils aillent à un endroit pour faire de la maintenance ou une révision. Et finalement, on ne peut pas en déduire que le chef de l'État est forcément à proximité de cet avion.
Alors, fin du suspense, peut-être ce week-end. Merci beaucoup, Paulina Zidi, pour ces explications. Fils, continuez à écouter les journaux Afrique de RFI, notamment, pour connaître la suite de ce feuilleton. Bonne journée à Kinshasa. La justice de l'Arizona exhume une loi de 1864 pour valider l'interdiction de l'avortement dans l'État. Donald, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. En ligne avec nous, Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Donald, c'est à vous. Vous avez la parole.
Ok. La Cour suprême de l'Arizona a décidé qu'une loi vieille de 160 ans interdisant totalement l'avortement pouvait être appliquée. Pourquoi les juges ont-ils décidé d'exhumer cette loi ?
Françoise Coste, il faut rappeler d'abord que la protection constitutionnelle du droit à l'avortement a été annulée en 2022. Chaque État américain a le droit de légiférer sur le sujet. C'est ce qui explique cette décision de la Cour suprême de l'Arizona de ressortir cette loi extrêmement ancienne.
Oui, d'autant plus que la Cour suprême de l'Arizona, historiquement, elle avait 4 juges. Et pendant longtemps, elle avait 2 juges républicains, 2 juges démocrates, ils étaient à égalité. Et le précédent gouverneur, qui était républicain, au moment où la Cour suprême nationale a annulé, comme vous l'avez dit, la protection nationale au droit à l'avortement, il a nommé, il a le droit, mais 2 juges supplémentaires. La Cour est passée à 6, 2 juges supplémentaires anti-avortement, conservateurs, de droite, républicains. Et grâce à cette majorité, il y a eu un vote donc, il y a 2 ou 3 jours, 4-2, pour sortir des tiroirs cette vieille loi du 19e siècle qui interdit effectivement totalement l'avortement.
Donald, vous avez une autre question.
Justement, est-ce que cela signifie que l'avortement est désormais interdit en Arizona?
Françoise Coste, il existe, je crois, une exception.
Alors ça c'est la question à $1 million, parce que personne ne le sait en fait, ça date de quelques jours, et il y a eu tout de suite, ça s'est transformé en bataille politique, parce qu'aujourd'hui l'Arizona a une autre gouverneur, une femme qui est démocrate, qui a remplacé le républicain dont je parlais, et la gouverneure démocrate a annoncé qu'elle ne ferait pas appliquer la loi, malgré le vote de la Cour suprême. Donc, pour l'instant, on est dans une sorte de suspense. Qui va l'emporter entre la Cour suprême et la gouverneure? Sauf que, pour compliquer encore plus la situation, même si la gouverneure, elle ne veut pas faire appliquer la loi, à l'échelle locale, dans les comtés, parce que l'État est divisé en comtés, il peut très bien avoir des procureurs conservateurs qui, eux, disent « mais la Cour suprême nous a envoyé un message, il faut appliquer cette loi ». Donc, au niveau local, il peut y avoir dans certaines villes des procureurs qui décident de l'appliquer. Et en plus, il faut aussi regarder la position des docteurs et des hôpitaux, des cliniques qui pratiquent l'avortement, parce que justement, le corps médical, lui, va dire « mais nous, on ne peut pas prendre le risque de ne pas savoir si on est un endroit où c'est la gouverneure qui va imposer sa vision ou un procureur local qui imposera la sienne. On ne peut pas vivre avec ce risque parce que la loi, elle est très dure. Il peut y avoir de la prison pour les docteurs et les infirmières qui participent à un avortement, à l'opération elle-même. Donc, on peut craindre, et c'est en fait ça qui va sans doute se passer, que dans les faits, quel que soit ce que dit la gouverneure, les hôpitaux et les cliniques vont refuser de pratiquer l'avortement pour ne pas prendre le risque de finir en prison. Et donc, dans ce cas-là, oui, pour répondre à la question de votre auditeur, dans ce cas-là, il est très fort probable que dans les semaines qui viennent, les services médicaux qui pratiquent des avortements décident de fermer. Et donc, dans les faits, sur le terrain, l'avortement sera interdit en Arizona.
Alors, Joe Biden a dénoncé une loi cruelle. Cette décision est le résultat, a-t-il dit, du programme extrême des élus républicains qui s'engagent à priver les femmes de leur liberté. Mais en fait, Françoise Coste, est-ce que cette nouvelle loi va forcément donner un avantage au parti républicain dans les urnes?
Alors ça, c'est le grand... Les démocrates pensent que non. Enfin, les démocrates pensent que le Parti républicain est en train de creuser sa propre tombe en faisant voter de telles lois très très dures dans plusieurs États. Et pourquoi l'Arizona a été tellement couvert par la presse? C'est que l'Arizona s'est considéré comme un État mauve, pourpre, c'est-à-dire que des fois, dans les élections présidentielles, des fois, il tombe du côté républicain, des fois, du côté démocrate. Et là, les démocrates, et Joe Biden, sa réaction, comme vous avez cité, le montre bien, pensent que la population de l'Arizona ne va pas accepter cette loi si draconienne, en particulier les électrices, et que donc Joe Biden a une immense opportunité de remporter l'Arizona en novembre contre Trump. Et comme l'élection sera sans doute très serrée, c'est un grand avantage pour Biden de pouvoir espérer compter sur l'Arizona. En tout cas, ce que ça confirme, c'est que l'avortement sera central dans la campagne.
Et il faut noter quand même, en 2 mots, Françoise Coste, que lundi, à la veille de la décision des juges en Arizona, Donald Trump a rétropédalé sur la question de l'avortement.
Il a fait un petit speech pas très clair en réalité, où il essaye de effectivement minimiser l'ampleur de la vague anti-avortement au sein du Parti républicain. Mais c'est pas très crédible puisque, pour revenir au début, la Cour suprême qui a annulé le droit à l'avortement, la Cour suprême nationale, elle a fait avec une majorité de 5 juges, dont 3 avaient été nommés par Trump. Donc en fait, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Il ne pourra pas ignorer cette question, Trump.
Merci beaucoup, Françoise Coste, d'avoir répondu à nos questions. Donald, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Lomé.
Et bonne journée.